Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce gros best-of estival de la revue de presse JV. Vous le savez, l'émission quotidienne va reprendre début septembre, car je le rappelle, la revue de presse JV, c'est un podcast quotidien qui, durant un petit quart d'heure chaque matin, vous livre toute l'actu jeux vidéo dans vos oreilles, hein, au podcast audio du futur. La saison 1 s'est écoulée il n'y a pas si longtemps que cela, hein, ça s'est arrêté fin juillet, et la saison 2 va donc réattaquer en septembre. Je vous donnerai la date, hein, de reprise officielle sur les réseaux sociaux, un petit peu partout comme d'habitude. Mais pour occuper le mois d'août, j'ai eu l'idée de faire des best-of. Alors normalement, il devrait y en avoir un autre, au minimum, si ce n'est deux de plus, selon mon emploi du temps. Mais en tout cas, voici un premier best-of spécial Parole de créateur, où je vous ai compilé, alors non pas tous les sujets, hein, où j'aborde les propos, où je rapporte même les propos d'un créateur de jeux vidéo, puisque là, ça aurait été un petit peu trop long, mais en tout cas, j'ai fait une sélection, puisque vous le savez, dans l'émission, j'aime bien mettre à l'honneur les créateurs en allant chercher leurs déclarations dans la presse française, mais aussi internationale. Et donc là, pendant une bonne grosse heure, on va parler des papas de God of War, Final Fantasy, Celeste, The Witness, Nier Automata, Yakuza, Nintendo Labo, le Street Pass et même un jeu inachevé nommé Mario Motors. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Bonne écoute pour ce best-of. Et puis si vous venez de découvrir l'émission, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez toutes les vieilles émissions à écouter. Vous avez les grandes revues de presse JV avec les tipeurs, bref, des replays, il y a plein de choses. De quoi se régalader les oreilles jusqu'à plus soif. Allez, on démarre l'émission tout de suite. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis donc à très très vite. Un excellent entretien mené par Pierre Gauthier sur le site Carbone parle de cette thématique également. C'est un entretien avec Cory Barlog, donc l'homme derrière le nouveau God of War. Une interview assez longue où Cory parle notamment de la nature compulsive des créateurs, des sacrifices personnels et familiaux que cela demande, l'influence du réalisateur George Miller sur sa façon de concevoir une histoire, George Miller qu'il a d'ailleurs côtoyé professionnellement. Donc oui, dans sa façon de concevoir non seulement une histoire, mais aussi des personnages, des dialogues. Il parle aussi des choix de gameplay, la présence de jauge seulement durant les phases de combat, le fait de ne pas trop assister le joueur dans son exploration, car il n'aime pas quand le joueur est trop guidé. C'est un entretien où Cory Barlog se livre comme rarement, peut-être même comme jamais. Donc ça, c'est signé Pierre Gauthier, qu'on félicite, et c'est à retrouver sur Carbone. Le lien, bien sûr, sera dans la description de l'épisode, mais j'ai quand même retiré quelques petits passages de cette interview. Alors, tout petit, bien sûr, ce n'est qu'une goutte dans cet océan d'informations, comme je le dis très souvent, et notamment sur la relation entre Kratos donc et son fils Atreus, puisque vous savez que dans ce nouveau God of War, Kratos a vieilli, Kratos est papa, et tout ça, ça ouvre tout un champ de nouvelles thématiques et de nouvelles mécaniques de gameplay de facto. Donc, il nous dit, Monsieur Barlog, je cite, « Permettez-moi de revenir sur le contexte dans lequel ce God of War est né. J'ai souvent été séparé de ma famille, car la création du jeu a pris beaucoup de temps. Au début et au milieu du développement, j'avais l'impression que mon enfant me connaissait à peine et qu'il était plus à l'aise avec sa mère qu'avec moi. Quand je lui demandais de me tenir la main ou de me prendre dans ses bras, il ne le faisait pas, car il ne m'avait pas vu souvent. J'ai retranscrit cette situation dans le jeu. Kratos n'a pas été un père très présent, et quand il commence à diriger sa main vers l'épaule de son fils pour le réconforter, il interrompt son geste car il ne sait pas comment faire. » Et donc cette thématique rejoint un petit peu celle qu'on a traitée dans la news précédente, voilà pourquoi je trouvais sympa d'enchaîner directement dessus. Encore quelques citations de Monsieur Barlog, notamment sur l'une de ses obsessions, nous dit Pierre Gauthier dans ce papier, « Raconter le jeu en un seul plan séquence, donc God of War, le plus long de l'histoire de la narration audiovisuelle, une trentaine d'heures. » Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je trouve, c'est quand même un sacré exploit. Après, il faut voir manette en main, si c'est réussi. Mais visiblement, je vois pas pourquoi ça ne le serait pas, en tout cas pas un minimum. Et donc, Monsieur Barlog nous dit « J'avais vu la fameuse scène de l'hôpital du film À toute épreuve de John Woo. Ce plan dure 3 minutes, au cours desquelles un policier tue l'un des siens, entre dans un ascenseur et réalise l'acte qu'il vient juste de commettre. J'ai montré cet extrait à l'équipe de Santa Monica Studio pour la convaincre qu'un plan séquence pouvait inclure de la dramaturgie. Alors, vous le savez que, ou peut-être pas d'ailleurs, que M. Barlog avait travaillé auparavant à Crystal Dynamics. Il avait bossé à Santa Monica Studio, s'était barré notamment donc pour aller travailler chez Crystal Dynamics, et donc, et avant de revenir donc à Santa Monica. Et lors de ce passage à Crystal Dynamics, il avait voulu, pour le reboot de Tomb Raider, il avait proposé, dès le développement du reboot hein, de Tomb Raider, j'avais parlé de cette idée à mes collègues de Crystal Dynamics. Et j'avais toujours eu la même réponse. Donc il cite hein, ses collègues de l'époque, « C'est un truc de cinglé, pourquoi faire ça ? C'est débile et ça nécessitera un boulot inimaginable. » Monsieur Barlog rebondit en disant « Ils ne me disaient pas ça parce qu'ils étaient fainéants, mais parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt d'avoir cette approche. » Et donc pour revenir sur God of War, hein, quand il nous dit, que, donc je le cite encore, hein, que lors des playtests, tout le monde n'a pas remarqué le plan séquence. Les gens ont juste indiqué qu'ils se sentaient proches de Kratos et d'Atreus et qu'ils percevaient leur intériorité d'une façon qu'ils n'avaient jamais connue dans un autre jeu. Occasionnellement, ils nous ont déclaré avoir vraiment adoré ce plan séquence et cela m'a fait plaisir car cela validait ce choix aux yeux des membres de l'équipe. Voilà ce que je pouvais dire sur ce papier qui est extrêmement long, passionnant à parcourir d'un bout à l'autre. Alors vous allez me dire, oui, tu dis encore que c'est passionnant, que c'est génial. Enfin, je serai un petit peu suicidaire si dans la sélection que je vous offre tous les matins, je vous parlerai des papiers tout pourris qui n'auraient aucun intérêt. Donc bien évidemment, j'essaie de vous trouver le plus de pépites possible et celle-ci en est une. Et donc je vous conseille d'aller la lire dès que vous aurez l'occasion. Arcade, Whisky, Costard, Toshiro Nagoshi, le mauvais garçon de Sega. C'est ainsi qu'est titré un excellent article premium hein, chez GameCult, hein, un article signé Victor Moisan. Alors bien sûr, comme toujours avec les articles premium, je ne vais pas vous résumer tout ce qui est dit, juste vous résumer grosso merdo ce qu'il y a dans le premier tiers. C'est passionnant. Alors, qui est Toshiro Nagoshi ? Ben, c'est le papa notamment de la saga Yakuza, mais pas que. Mais ce dossier est en ligne puisque le sixième volet des aventures de Kazuma Kiryu eh ben, vient de débouler en Europe. Vous savez, Yakuza, c'est une série vraiment qui m'est très chère, que j'aime beaucoup, que je défends depuis le premier numéro. Et heureusement, depuis quelques temps, ben, ça commence à prendre un petit peu en Europe, heureusement, enfin en Occident, tout du moins. Et donc, ce dossier sur GameCult revient sur la carrière de Toshiro Nagoshi, qui est, donc Dixit, hein, GameCult, hein, une figure essentielle de Sega, dont il est à la fois le mauvais garçon et le plus fidèle historien. Alors, qu'est-ce qu'on apprend au début de ce papier ? Eh bien, que Toshiro Nagoshi est né en 1965 dans la petite ville de Shimonoseki, et il est issu, selon ses dires, hein, je le cite, d'une famille de vendeurs de poissons qui ne s'intéresse pas aux technologies. Alors, le jeune Toshiro trouve refuge dans les salles de cinéma et les films des années 70 hein, particulièrement influenceront son œuvre et plus particulièrement, bien sûr, vous vous en doutez, la saga Yakuza. On apprend que donc, Monsieur Nagoshi monte à Tokyo, hein, étant jeune homme, pour étudier le cinéma. Et il obtient un diplôme à l'Université des Arts et du Design. Peu de temps après, il est embauché par Sega. L'industrie, nous dit-on, est alors avide de talents capables de brouiller la frontière entre jeu et 7e art. Nagoshi entre chez le géant du jeu vidéo en tant qu'illustrateur, chargé de l'apparence des personnages, des décors et des effets, mais fait très vite parler de lui lors d'une réunion mémorable. En effet, en pleine réflexion sur le démo mode d'un titre d'arcade, les pontes du département se font couper la parole par un jeune homme un peu présomptueux, dont les idées font mouche tant elles condensent avec force et simplicité l'essence du jeu qu'ils essayent tant bien que mal de présenter. Le grand patron le félicite et lui demande où il a appris le marketing. « Je ne sais rien des enjeux du marketing, mais il m'a semblé que ce dont nous discutions était très proche de ce que j'ai étudié à propos du cinéma », lui répond le jeune homme. On lui confie alors la responsabilité de séquences animées qu'on n'appelle pas encore séquences cinématiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Monsieur Nagoshi débute sa carrière aux côtés du grand Yu Suzuki au sein du mythique studio AM2. Yu Suzuki, alors que je ne représente pas, hein, quand même, papa de Virtua Fighter, d'Outrun, d'Angon, bref, j'en passe et des meilleurs. Donc Yu Suzuki transmet à Nagoshi une certaine conception du cool nous dit-on, façon Sega. Mélange de vitesse associé au fun, aux couleurs flashy et à la fluidité du gameplay arcade, autant de qualités qu'on retrouve dans le premier titre de Nagoshi en tant que planeur, Daytona USA, ce jeu de caisse complètement dingo qui était sorti en 1994, et qui d'ailleurs est un large succès international. Je rappelle que le jeu est développé sur la célèbre carte Model 2 et c'est une prouesse technologique tournant à 60 images par seconde. Alors pour concevoir les circuits, Nagoshi, nous dit le papier de GameCult, se chronomètre tour après tour, note le nombre de fois qu'il vira gauche ou à droite, ainsi que le temps passé à incliner le volant. Il invente de cette manière une philosophie du jeu de course qu'il rapproche de l'écriture musicale, en ce que chaque tour de piste est réglé selon une science de la partition et du groove. On retrouve cette même priorité donnée à la sensation sur un registre plus musclé certes, mais qui servira à l'élaboration des bastons du rue de Yakuza dans le beat'em up Spike Out, sorti en 1998, l'un des titres emblématiques du travail de Nagoshi au sein d'AM2. D'ailleurs, Spike Out, tout comme Scud Race, que j'ai attendu tant d'années sur Dreamcast à l'époque, mais ceci est un autre débat. Porté à l'orée du nouveau millénaire, nous dit-on, Toshihiro Nagoshi éprouve le désir de s'affranchir de l'arcade et prend la tête d'Amusement Vision, donc ex-studio AM4, entité formée en même temps que de nombreux studios qui restent dans le giron de Sega, mais qui possèdent, et là c'est important, une organisation beaucoup plus autonome qu'auparavant. Pour briser l'apathie propre aux structures japonaises, il se met à l'écoute de ses employés, leur accorde du repos quand ils traversent des phases difficiles et s'emploie à tirer profit de leur créativité individuelle en bousculant les procédures habituel de prise de décision. Oui, Nagoshi à l'époque, ça même moi je ne le savais pas, pourtant je connais un peu la carrière du bonhomme, étant fan de Yakuza, je ne pensais pas que son côté rebelle se manifestait déjà comme ça à l'époque, et donc le papier nous explique que c'est dans cet état d'esprit qu'est conçu Super Monkey Ball en 2001, un party game où l'on dirige une boule avec un singe à l'intérieur à travers un parcours d'obstacles selon un concept proche du mini-golf. C'est un jeu qui a marqué beaucoup de monde, moi notamment je l'avais sur GameCube. Donc ce titre est réalisé en deux temps, donc nous dit-on d'abord en arcade, puis effectivement sur console GameCube. Nagoshi, très très humble, s'est contenté finalement, nous dit-il, d'écouter son équipe en sélectionnant les meilleures idées. Il déclare plus précisément, je le cite, « Rouler, voilà mon idée principale, je voulais que ce soit facile à diriger, qu'il y ait une boule transparente avec un personnage dedans. La conception des niveaux, les mécaniques et tous les trucs, tout est l'invention des level designers, pas de moi. Le plaisir physique qu'on éprouve à faire rouler la boule ainsi que tous les mini-jeux proviennent de mes programmeurs, tout comme le mode multijoueur à 4. Je n'ai fait que décider de ce qui serait conservé dans la version finale du jeu. » Et je trouve ça vraiment tout à l'honneur de Monsieur Nagoshi de ne pas s'approprier le succès de Super Monkey Ball. Et donc on nous dit, et j'arrêterai là, là c'est à peu près à la moitié, même pas à la moitié complètement du dossier, sachant que là j'ai déjà évincé pas mal de passages, on nous dit donc qu'avec Super Monkey Ball, Monsieur Nagoshi entame une période où il se défait quelque peu de l'esprit Sega pour, avec un plaisir non dissimulé, se rapprocher du grand rival Nintendo. Donc la suite de ce dossier passionnant à plus d'un titre est à lire sur GameCult. Essayez de gratter un petit code de lecture, un petit code premium auprès de vos contacts. Bon, si vous faites la demande sur Twitter ou sur Facebook, en général, ça s'obtient très très facilement. Et pourquoi pas de vous abonner à l'excellent premium de GameCult. On ne le répétera jamais assez. Voilà, moi ça me fait super plaisir ce dossier, puisque vous imaginez bien que la partie qui m'intéresse le plus, c'est la partie sur la genèse de Yakuza. Alors, je connaissais déjà pas mal de choses, pour avoir même écrit à l'époque dans IGMAC, sur le monsieur sur la série Yakuza, mais là on apprend encore de nouvelles choses, et c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu pas mal d'interviews qui ont été données, dont des extraits savoureux sont compilés dans ce super papier. Donc voilà, c'est à lire d'urgence sur GameCult. Le site Destructoid a pu s'entretenir avec Matt Thorson. Alors Matt Thorson, qui c'est? Eh ben c'est tout simplement le papa de Céleste, le jeu de plateforme hyper ardu au look 8 bits qui cartonne en ce moment, qui est sorti un petit peu sur toutes les plateformes. Matt Thorson, rappelons-le, était aussi le papa de Towerfall, et il avait commencé sa carrière à faire des petits jeux sur Game Maker. Bref, aujourd'hui, il a confirmé son talent, puisque Towerfall était déjà très bien dans un autre registre, c'était surtout du multilocal. Et Céleste, jeu plateforme solo, hardcore, que l'on pourrait rapprocher vaguement de Super Meat Boy, mais avec vraiment une trame scénaristique assez profonde et un mode assistance très complet, très détaillé, dont on avait déjà parlé il y a quelques émissions de cela. Je reviendrai peut-être sur Céleste hein, à l'occasion, puisque j'ai eu l'occasion de le terminer, et je trouve que ce mode assistance hein, qu'on peut vraiment paramétrer à l'envi donne une accessibilité au jeu qui est quand même assez exceptionnelle, même si pour connaître vraiment l'expérience principale et avoir vraiment toute la teneur du jeu, il vaut mieux effectivement se limiter au mode classique. Bref, ceci est un autre débat. Là, ce matin, je tenais vraiment à vous rapporter ces propos que j'ai traduits donc à partir du site Destructoid, des propos très intéressants donc de Matt Thorson, et je vous ai fait donc une belle petite sélection par thématique. Tout d'abord donc sur Céleste et la Switch, puisque Céleste donc est sorti certes sur PC, hein, sur divers consoles, mais aussi et surtout sur Switch. Et donc Monsieur Thorson explique, je cite, dès que nous avons joué à la Switch, nous savions que cette console conviendrait parfaitement à Céleste. Nous avions aussi l'impression que Céleste trouverait un écho favorable chez le public de Nintendo et que le jeu y trouverait sa place. Nous allons d'abord patcher Céleste, puis commencer à travailler sur le portage de Towerfall. Donc Towerfall sortira également sur Switch, ça c'est une bonne nouvelle. Il nous dit aussi que la version de Céleste hein, sur Switch a été la plus vendue de toutes. C'est une news très importante, alors, on n'a pas les chiffres encore exacts, mais par rapport à la version Steam, par rapport aux versions PS4, etc., c'est la version Switch qui a le plus vendu. La Switch hein, qui se confirme vraiment une fois encore qu'elle est la terre vraiment bénie des jeux indés en ce moment, c'est assez incroyable. Et donc il nous dit hein, que ils avaient l'impression, lui et l'équipe, que Céleste et la Switch étaient parfaitement adaptés l'un à l'autre. Destructoid lui demande des conseils qu'il pourrait donner éventuellement à des développeurs indés. Et donc le papa de Céleste répond « Nous avons développé notre équipe de façon très organique et lente au fil des ans. Et nous n'avons jamais pris de gros risques financiers. Je pense qu'il est important de s'assurer que vous ne travaillez pas dans une situation de travail très stressante et que vous avez de l'espace pour expérimenter et faire de votre mieux. » Commencez petit, grandissez lentement, devenez propriétaire de votre travail et assurez-vous que le processus vous rend heureux. Concernant l'accueil dithyrambique, hein, il n'y a pas d'autre mot, de Céleste, il nous dit, hein, je cite, « La réception nous a soufflé. Lorsque vous travaillez sur quelque chose pendant si longtemps dans un secret relatif, une partie du défi consiste à garder le point de vue sur le sujet. Il est facile d'oublier ce qui rend votre jeu spécial et de se concentrer sur les défauts. Donc, quand la réception est positive, cela vous rend un petit peu aveugle au final. Nous avons reçu d'excellents commentaires et nous avons corrigé des bugs et porté des petits changements au jeu depuis son lancement. Il y aura même bientôt un patch hein, qui résoudra la plupart des bugs. Toute l'équipe s'est profondément investie dans ce jeu. J'étais en charge de l'écriture et de la conception, et j'ai puisé dans mon expérience personnelle pour créer l'histoire de Madeline. Je suis content de la résonance que ça a eu au niveau du public. Et effectivement, sur le message, hein, alors je vais pas trop spoiler, mais c'est vrai que cette petite Madeline hein, qui veut gravir cette grande montagne, hein, ça c'est le fil rouge, hein, je dirais, de l'histoire, c'est une histoire assez psychologique, avec des dialogues très très bien écrits, et donc, qui est basé un peu sur le mal-être de ce personnage, mais je n'en dirai point plus, n'est-ce pas ? Il nous dit donc sur le message hein, du jeu Céleste que nous n'avons pas écrit Céleste comme un outil d'enseignement, mais c'est si efficace, je trouve ça super cool. J'écrivais, donc le scénario du jeu, à partir d'un lieu où j'avais vécu une expérience personnelle très forte. Nous voulions que le jeu soit honnête, personnel et franc. Mais je ne prétends pas qu'il soit universel. Je suis vraiment heureux que cela semble aider les gens, même si l'expérience de l'anxiété est différente d'une personne à l'autre, le message du jeu reste valable. Et concernant la suite des événements, que va-t-il faire, ce monsieur, ce studio ? Il nous dit honnêtement, je suis beaucoup plus motivé à explorer de nouveaux territoires que de revisiter les vieux jeux. Il y a certaines idées dans mon ancien travail qui méritent d'être réexaminées. Céleste hein, partage l'ADN avec Jumper et Untitled Story, par exemple. Donc, bien qu'il soit peu probable que je revisite directement mon ancien travail, je pense que vous trouverez toujours des clins d'œil, des indices dans mes travaux futurs. Voilà ce qu'on pouvait dire hein, ce matin sur les propos de Matt Thorson. Est-ce que vous avez joué à Céleste ? Qu'en avez-vous pensé de sa grande difficulté, mais de ce mode assisté qui permet vraiment de modifier un tas de choses dans le jeu et jusqu'à pouvoir le faire sans mourir, en ayant tous les pouvoirs au maximum ? Dites-moi tout ça, moi je trouve l'approche très intéressante, on en reparlera je pense de toute façon très certainement dans cette émission. j'aimerais vous parler de Yutaka Saito. Alors, qui est Monsieur Saito ? C'est un game designer japonais qui a eu une relation assez particulière avec Nintendo. Yutaka Saito, on le connaît notamment pour être le créateur de Simtower, Seaman ou encore Odama. Et il faut savoir qu'il considérait Satoru Iwata et Shigeru Miyamoto comme des amis. Et Monsieur Saito a livré de bien belles anecdotes lors du Reboot Develop 2018 en répondant aux questions d'un certain Robert Purchase, donc lors d'une conférence qui a été effectuée durant cet événement. Robert Purchase, c'est un journaliste d'Eurogamer, et donc ce monsieur en a profité pour poser plein de questions à Monsieur Saito, et on apprend des choses assez incroyables, notamment l'origine du Street Pass. Alors si vous avez eu une 3DS, vous vous rappelez quand même, je pense, ce qu'était le Street Pass. C'était un logiciel donc intégré à la 3DS et qui permettait de communiquer avec d'autres possesseurs de 3DS. C'était vraiment super ingénieux et c'est même dommage que ce n'ait pas été perpétué plus que ça, car c'était vraiment l'une des plus belles inventions de Nintendo. Bref, il faut donc savoir que Monsieur Saito rencontrait régulièrement Satoru Iwata, ancien président qui nous a quitté, ancien président de Nintendo, et donc Shigeru Miyamoto, qu'on ne présente plus. Donc ils se voyaient très régulièrement pour prendre le thé, entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Et c'est lors d'un de ces rendez-vous que Monsieur Saito a raconté à l'époque donc une histoire à Monsieur Miyamoto et Iwata. Donc Monsieur Saito a dit, je cite, une fois, lorsque nous discutions de certaines choses que nous aimerions voir et pouvoir faire avec un nouveau matériel qui serait disponible pour la prochaine génération de Game Boy, j'ai raconté à M. Iwata Miyamoto une histoire de l'époque où j'étais étudiant au collège. Chaque matin, en effet, sur le chemin de l'école, il y avait une fille dans le train qui me plaisait beaucoup. J'avais presque 15 ans et j'étais bien trop timide pour lui parler. Alors, j'ai émis l'idée que si nous avions une sorte de machine magique pour pouvoir lui parler, eh ben ce serait tout simplement merveilleux. Quelques années plus tard, donc dit Monsieur Saito, ma société a été invitée au siège de Nintendo pour une réunion entre développeurs, etc. Et la personne qui gérait donc cette réunion a dit à Monsieur Saito, il y a encore un élément dont nous n'avons pas encore parlé. Restez ici. C'est quelque chose que le PDG Monsieur Iwata veut vous dire personnellement. Je vais l'appeler. Attendez-le. Bon. Quelques minutes plus tard, nous dit Monsieur Saito, Iwata-san est descendu dans la salle de réunion, avec un grand sourire. Et il a dit, Monsieur Saito, nous avons finalement mis le dispositif dont nous avions parlé. Il s'appelle Street Pass. Les réunions de Monsieur Saito avec Iwata et Monsieur Miyamoto se poursuivaient, et comme il le faisait souvent, Iwata demandait à Saito ce qui l'intéressait dernièrement. Monsieur Iwata, comme vous pouvez le constater, demandait régulièrement son avis à Monsieur Saito, puisque ça les a bien inspirés. Et donc un jour, Monsieur Saito répondit qu'il avait vu une démonstration d'un logiciel qui était là pour faire la démonstration des capacités de la DS avec le stylet, les manipulations. Et donc il y avait une démo qui montrait un cylindre en métal qui était tournoyé, sculpté donc à l'aide du stylet. Et ça l'avait toujours fasciné à Monsieur Saito de voir comment les composants des montres, des appareils photo, des ordinateurs et autres appareils étaient créés à partir d'une seule et même pièce de matériaux. Et Monsieur Saito aurait dit à Monsieur Iwata, cette idée de sculpture est vraiment attirante pour un homme d'âge moyen comme moi. Il a décrit donc une idée de jeu dans lequel on pourrait sculpter à partir d'un morceau de métal un moteur pour une voiture, et comment sa forme déterminerait sa capacité. Alors apparemment il a expliqué cette idée à Monsieur Miyamoto et Monsieur Iwata, qui l'ont visiblement écouté très attentivement à l'époque dans un silence complet, et finalement les deux hommes lui auraient dit « ça a l'air intéressant, essayons ». Et c'est ainsi qu'est né un projet de jeu donc, qui était destiné à la gamme DS de Nintendo, sous le nom de code Mario Motors. Donc Mario Motors devait normalement, donc le but de ce jeu était d'aider les joueurs à comprendre les moteurs à un niveau plus profond. Monsieur Saito a dit lors du Reboot Develop 2018, je le cite, « Savez-vous, par exemple, ce qui se passe dans un moteur quand on appuie sur la pédale d'accélérateur ?» Monsieur Saito demande ça au public, et donc personne n'a répondu. Monsieur Saito poursuit, « Quand vous appuyez sur la pédale, les soupapes d'air s'ouvrent et plus d'air rentre dans le moteur. C'est quelque chose de si simple que les gens souvent n'y croient pas vraiment. Et M. Saito donc, a fait une démonstration de ce principe avec une seringue qu'il remplissait d'air et qu'il a collée sur son doigt. Et donc il dit que c'est cette méthode qu'il voulait enseigner aux joueurs et qu'il voulait dérouler donc dans Mario Motors, en soufflant dans le micro de la DS. Voilà, c'était l'une des idées qu'il avait pour ce projet. Cependant, apparemment, ça n'a pas pu se faire en raison d'une considération typique des produits Nintendo. Il nous dit, Monsieur Saito, il précise même, il dit « J'ai abandonné cette idée parce que les enfants en seraient essoufflés. » Il ne donne pas plus de précision sur l'annulation du jeu, parce que je pense pas que ça se limite à ce mini-jeu au niveau du micro. Mais toute la phase d'élaboration de ce Mario Motors, qui ne verra jamais le jour, a permis donc au game designer de comprendre vraiment d'autant plus la philosophie qui habitait les jeux Nintendo et ce qui les rendait si spéciaux. Il précise, je le cite, « Pendant que je travaillais sur ce prototype, j'ai eu la chance de rencontrer ces gens et ils étaient très excités de voir comment mon prototype avançait. Non pas d'un point de vue commercial, mais d'un point de vue créatif. Ils étaient intéressés de voir de quoi je parlais à chaque fois. Monsieur Miyamoto m'a dit qu'il est un créateur de jeux, mais aussi un producteur. Et Monsieur Iwata a toujours travaillé dur pour essayer de découvrir de nouvelles choses et d'aider les jeunes talents à se développer. J'ai réalisé à quel point ils se respectaient l'un l'autre et comment ils ont formé les deux roues qui ont fait avancer le business du jeu Made in Nintendo. Ils m'ont impressionné parce qu'ils donnaient toujours quelque chose de nouveau aux gens, malgré le fait qu'ils avaient eu beaucoup de succès dans le passé. Ils avaient très faim de nouvelles choses. » Je tenais vraiment à vous traduire ce papier donc en anglais à la base sur Eurogamer.net puisque je trouve qu'il ouvre une toute petite fenêtre sur une part d'histoire Nintendo qu'on n'a pas entendu. Enfin, tu vois, moi, Mario Motors, je n'avais aucune idée. Je ne sais pas si ça a déjà été balancé ailleurs, mais en tout cas, moi, je ne le savais pas. Donc, je voulais vraiment vous apporter cette petite info ce matin pour une rubrique donc Japon un petit peu spéciale qui se concentre sur ce sujet unique, mais même si vous n'êtes pas spécialement fan de Nintendo ou de l'environnement DS, 3DS, etc., je trouve que au niveau de l'histoire du jeu vidéo, cette petite anecdote est quand même très très sympathique. Alors, faut savoir qu'actuellement, Monsieur Saito bricole avec un moteur d'intelligence artificielle, peut-être visiblement pour s'en servir sur un nouveau jeu mobile, Seaman. Dans le futur, il aimerait bien refaire un Seaman. Alors, il a aussi préparé une sorte de prototype pour iPad, un jeu mobile, donc bien sûr, qui ressemble à, qui est une sorte de Sim Tower. Il a d'ailleurs appelé le public, lors de cette conférence, à venir à son pupitre pour essayer ce prototype. Bon, par contre, on n'a pas plus de détails sur une éventuelle date de sortie du jeu. On n'en sait pas plus que ça. Monsieur Saito a conclu, je trouve, de fort belle manière. En 10 ans, ce que M. Iwata m'a appris, c'est de permettre à ma personnalité d'être différente. Sois fier d'être différent des autres. Et ça, c'est assez, c'est une drôle de coïncidence, puisque c'est une philosophie qui ne m'a jamais quitté depuis ma plus tendre enfance. Donc, je me retrouve un peu dans ces mots-là. Alors, avant de se diriger tout doucement vers la fin de l'émission, j'ai oublié de vous préciser ce qu'était la Reboot Develop 2018. C'est un événement qui s'est déroulé en tout cas cette année en Croatie et qui rassemble divers éléments de l'industrie du jeu vidéo avec des développeurs surtout qui enchaînent les conférences. Et je vous avouerai que j'ai découvert cet événement en fouinant donc pour vous apporter des news bien fraîches et inédites entre guillemets pour la revue de presse JV. Et c'est comme ça que je suis tombé sur l'article de la version anglaise d'Eurogamer. En tout cas, ils ont l'air d'avoir du beau linge dans cet événement. Et donc, je vais aller jeter un œil pour voir s'il n'y a pas d'autres choses très intéressantes à vous rapporter émanant de cette Reboot Develop 2018. La rédaction du magazine britannique Retro Gamer a demandé à ses lecteurs de voter pour leur machine préférée. En soi, un classement de ce type, c'est pas hyper pertinent, c'est pas révolutionnaire, nous sommes d'accord. Mais la chose intéressante de l'histoire, c'est que Retro Gamer complète ses résultats, donc le résultat de ses lecteurs, avec une multitude de témoignages de développeurs, et c'est cet aspect du dossier qui est vraiment captivant. Alors, Rien que pour vous, chères auditrices et auditeurs, j'ai traduit certains témoignages qu'il me fallait absolument vous rapporter. Alors j'ai pas pu tout vous rapporter parce qu'il y a 25, une trentaine même de machines dans le classement, énormément de témoignages, donc ça aurait pu faire une émission de 2 heures, hein, au bas mot. J'ai vraiment tiré quelques passages, ceux qui me paraissaient les plus pertinents. Et au niveau des machines, il se peut que certaines de vos machines préférées, y compris hein, des miennes, ne figurent pas dans le classement puisque j'ai privilégié les témoignages hein, des développeurs plutôt que des machines. Parce que, comme je vous le disais, vous donner le classement intégral de des machines, ça n'a pas de sens. Bref, sur la Neo Geo, qui se classe 25e hein, de ce dossier, nous avons Yasuki Oda, producteur historique hein, chez SNK, et donc on lui demande, concernant la Neo Geo, pourquoi tant de jeux de combat sont sortis sur cette console, sur ce système. Et donc il répond qu'à cette époque, les jeux de combat, je cite, hein, étaient le genre le plus populaire sur le marché de l'arcade. En conséquence, SNK a décidé de se concentrer sur le développement de jeux de combat. Les développeurs hein, ont passé la plupart de leur temps à développer donc des jeux de ce type, et donc ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion de développer d'autres genres, hein, d'autres styles de jeux, et y compris pour d'autres plateformes. Et quand on lui demande quel est le titre qui pour lui représente le mieux la Neo Geo, il répond Art of Fighting, puisque, dit-il, c'est le premier à être sorti avec le sigle 100 Mega Shock. Et oui, 100 Mega, il faut dire que Art of Fighting, avec ses zooms, etc., envoyait du lourd à l'époque. On bondit à la 20e place, puisque la Wii arrive 20e, hein, selon les lecteurs de Retro Gamer. Et c'est Sam Barlow, alors c'est pour ça que je voulais vraiment vous rapporter ses propos. Alors Sam Barlow, qui c'est? C'est celui qui avait fait le faux remake du premier Silent Hill, hein, qu'on appelle Shattered Memories, qui est sorti donc sur Wii. Récemment, il s'est fait vraiment un nom avec Her Story, et son prochain jeu, Telling Lies, se dévoile hein, petit à petit depuis quelques semaines. Mais donc là, pour le coup, comme c'est la Wii, on revient sur sa vision de Silent Hill, et donc on lui demande quelle était l'importance, notamment de la manette de la Wii, c'est-à-dire le Nunchuk, la Wiimote, à ses yeux. Il nous dit que pour lui, ça a joué un rôle énorme, et que c'était un contrôleur qui n'avait pas besoin d'être expliqué à ceux qui n'avaient pas d'expérience dans les jeux vidéo, et il était super amusant à tenir. Et Sam Barlow dit que c'est très très facilement sa manette de jeu préférée. Il dit notamment, je cite, « Le Nunchuk et le combo de la Wiimote ont permis d'obtenir une excellente configuration de base. » Et il est heureux, nous dit-il, que la Switch ait emprunté cet élément pour ses Joy-Con. Alors le magazine britannique lui pose également la question « Comment pensez-vous que Silent Hill Shattered Memories a bénéficié de la sortie sur Wii ?» Et il répond « Nous avons construit tout le jeu autour de la machine. Nous voulions faire un jeu accessible et différent et avoir le mouvement de base et la caméra basée sur le pointeur, jouant également le rôle devant lampe torche et tout ça, c'était incroyable. Nous voulions que les puzzles soient simples mais tactiles. Tout a été fait en sorte pour que le joueur se sente vraiment plongé dans ce monde. » En 17e place, nous trouvons l'Atari 2600 et Nolan Bushnell, hein, rien de moins que l'un des papas de Pong et le cofondateur d'Atari, du grand Atari de l'époque. On lui demande, est-ce que l'Atari 2600 a réalisé tout ce que vous aviez prévu à l'époque, monsieur Bushnell? Et il répond, je cite, « Elle a largement dépassé mes attentes. Lorsque le système a été conçu au départ, nous pensions qu'il pourrait contenir jusqu'à 20 cartouches au maximum et j'ai pensé que la machine aurait une durée à peu près de 3 ans. Nous avons pensé qu'il faudrait la remplacer hein, par un meilleur matériel avec plus de mémoire, etc. » La Warner hein, pensait même que c'était un genre de tourne-disque et il voulait seulement se concentrer sur les cartouches. Et quand on lui demande quel est son jeu favori de la machine, Nolan Bushnell répond « Pitfall ». Et Combat, c'est vraiment les deux jeux qu'il a aimés, même si certains bah, n'étaient pas faits en interne chez Atari. Et donc on lui demande ce qu'il pense de cette réédition de l'Atari 2600 dont on a parlé il y a quelques jours. Et ben il est très heureux, voilà, tout ça le rend très heureux que la tradition soit perpétuée, que la marque Atari 2600 soit perpétuée à travers cette nouvelle itération. Toujours pour rester sur l'Atari 2600, Alan Alcorn, hein, le designer de Pong, nous donne également son jeu Atari 2600 préféré, et pour lui c'est Chess, alors C-H-E-S-S, vous savez que j'ai une prononciation en anglais qui est absolument extraordinaire, donc vous l'aurez compris, c'est le jeu d'échecs. Il nous dit que c'était techniquement très difficile de créer un très bon algorithme d'échecs avec seulement 2K de ROM hein, et 128 octets de RAM et d'afficher autant d'objets sur l'écran. Mais, nous dit Monsieur Alcorn, c'est probablement notre jeu qui a eu le moins de succès. Là, on atteint la 14e place et ce n'est pas moins que la Sega Saturn hein, qui se positionne en 14e place et Yu Suzuki, le papa de Shenmue, le papa de Virtua Fighter, le papa de Virtua Racing et j'en passe, a été bien évidemment questionné et j'ai retenu notamment deux questions et donc réponses hein, qu'on lui soumet. Notamment, on lui demande quel souvenir avez-vous, monsieur Yu Suzuki, du codage de Shenmue sur Saturn ? Parce qu'il faut se souvenir qu'à la base, le jeu avait été prototypé sur Saturn. Et donc il nous dit, en ce qui concerne le développement de fonctionnalités 3D, nous avons fait une variété d'expériences de base hein, pour repousser les limites de ce que nous pouvions faire. C'était passionnant et mon pouls battait la chamade tout au long du développement. Et on lui demande donc, d'après lui, quel est le jeu hein, qui définit le mieux la Sega Saturn. Et donc, il pense que ce serait carrément la série Virtua Fighter. Virtua Fighter 2, qui nous rappelle Yu Suzuki, s'est vendu à 1,7 million d'exemplaires sur Saturn, ce qui était un record à l'époque. Pour la machine, bien sûr. Là, on va aller très loin, on va aller directement à la 6ème place avec l'Amiga 500. Vous savez que c'est un micro qui m'est cher et c'est ma machine préférée de la vie avec la Super Famicom. Et là, concernant l'Amiga 500, alors beaucoup d'interviews, mais je pouvais pas tout garder, bien sûr. Et donc, j'ai retenu juste deux questions qui ont été posées à Martin Brown, le cofondateur de Team 17. Alors, Team 17, on les connaît surtout maintenant pour pas mal de jeux sur console et notamment toutes les itérations de Worms. Mais sur Amiga, c'était l'un des killers, vraiment, c'était l'un des studios qui maîtrisait le mieux la machine. À vrai dire, quand ils sont arrivés, ce furent les seuls à pouvoir manier aussi bien la machine et à pouvoir tenir un peu la tête haute face au studio qu'employait Psygnosis en face. Et donc, on lui demande à ce monsieur Brown sa réaction sur le fait que l'Amiga est l'ordinateur le plus plébiscité dans ce top. Hein. Quel est l'avis donc de monsieur Brown sur cette popularité hein, sans faille de l'Amiga. Et donc il dit, je cite, hein, « Cela ne me surprend pas, il y a quelque chose, à propos de l'Amiga qui a lié tant de gens et apporté tant de divertissement. Et la machine est probablement responsable hein, d'une augmentation massive de l'intérêt à la fois pour le jeu vidéo, mais aussi pour ceux qui se sont lancés dans la carrière de créateur de jeux. » Donc l'Amiga fait partie des machines qui a suscité beaucoup de vocations, et on lui demande « qu'est-ce qu'il a aimé ?» Hein, chez l'Amiga. Et donc Martin Brown répond « J'ai adoré l'Amiga en raison de son architecture ouverte et du fait que l'on pouvait réaliser de grandes choses avec un son et des images de très grande qualité. J'ai adoré également l'esprit de la communauté Amiga. Une communauté pleine de passion. Je ne suis pas sûr qu'il y ait jamais eu un ordinateur comme ça avant ou depuis. » On arrive en deuxième place. En deuxième place, et ça fera plaisir aux Sega fans qui m'écoutent, c'est la Mega Drive. Qui manque, il y a eu un grand retentissement en Angleterre. Hein. Et pour la Mega Drive, c'est David Perry, alors le cofondateur de Shiny et plus récemment de Gaikai, hein, spécialisé dans Cloud Gaming d'ailleurs, qui a été racheté par Sony. Bon, David Perry, hein, Cool Spot, la version Mega Drive d'Aladdin, même si la version Super Nintendo reste la meilleure, n'est-ce pas ? Je ne veux pas redéclencher les enfers, mais voilà, c'est mon avis, je le dis, c'est gravé. Earthworm Jim, 1 et 2, bref, un gros bonnet, comme on dit à la Kojip. Et donc, on lui demande s'il se souvient de sa première rencontre avec la Mega Drive. Il nous dit, donc je cite hein, David Perry, « Nick, Brutti et moi étions une équipe réalisant des jeux pour ZX, Spectrum, Amiga et Atari ST. Nos créations hein, étaient dédiées à Probe Software, hein, éditeur qui était géré par Fergus McGovern. Donc avec des jeux comme Teenage Mutant Hero, Ninja Turtle, Dandar 3, Paperboy 2, etc. Il nous dit que Fergus a réussi à nous obtenir une Mega Drive et la licence pour le film The Terminator de James Cameron. La journée la plus excitante de tous les temps. Bien sûr, nous avons accepté le projet, mais nous n'avions aucune expérience sur cet appareil et je n'avais aucune idée comment programmer dessus, alors que le manuel était principalement en japonais. Nous n'avions pas non plus d'outils pour en faire des jeux. À l'époque, nous nous sentions invincibles et donc nous avons commencé à taper notre code. Enfin, en numéro 1... Vous vous en doutez, la Super Nintendo. Et parmi les témoignages recueillis concernant la 16 bits hein, légendaire de Nintendo, j'ai pris celui de John Romero, vous savez, le cofondateur d'ID Software, Iron Storm, etc. Un grand monsieur du jeu vidéo, un grand monsieur du FPS. Quand même, le bonhomme hein, a son nom collé à des légendes hein, comme Wolfenstein 3D, Doom ou encore Quake, pour ne citer que les plus connus et les plus influents. Bien sûr. Et donc il nous dit sur la Super Nintendo quelle était la console parfaite de son époque, éclipsant la génération précédente. Il nous dit, je cite, hein, « Les développeurs ont réalisé avec enthousiasme des centaines de jeux pour la Super NES, comme ils l'ont fait pour la NES, mais cette fois-ci, il y avait plus de couleurs, plus de vitesse et des modes graphiques beaucoup plus intéressants, comme le fameux mode 7 hein, employé par le classique F-Zero. Les killer apps de la Super NES ont sans aucun doute rendu la console légendaire. Super Mario World, Link to the Past, Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Earthbound, F-Zero, Super Metroid, la liste est encore longue. C'est ma console préférée de ces 40 dernières années. Je ne me suis jamais autant amusé sur une autre console. Alors j'espère que ce petit panaché, ce petit florilège de témoignages vous a plu. Comme je vous l'ai dit, il y en avait tellement que je pouvais pas tout garder bien sûr. Et donc on va pouvoir passer à la suite. Les 30 ans de Final Fantasy, hein, qu'on a fêté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, vous savez, je vous en ai parlé. Et d'ailleurs, spécifiquement pour les tipeurs, hein, lors d'une édition du samedi, où vous le savez, le samedi, il y a la rubrique revue de presse rétro, où donc j'étais revenu sur des coupures de presse hein, concernant essentiellement l'accueil d'FF6 et d'FF7. Pourquoi je vous reparle de Final Fantasy ? Eh bien, figurez-vous que le dernier numéro de Edge, hein, le fameux magazine britannique de référence, a célébré, malheur en grande pompe, les 30 ans de Final Fantasy avec un énorme, gigantesque dossier exclusif dans lequel les principaux acteurs de la saga se livrent comme rarement. J'ai épluché ce numéro, hein, j'en ai traduit pas mal de passages rien que pour vous. Je me suis concentré sur les passages où Hironobu Sakaguchi, hein, donc le papa historique de Final Fantasy, les passages donc où il a pris la parole. Si j'étais revenu sur Kitase, Nomura et consorts, là, il y en avait pour 3 heures d'émission. J'ai extirpé des déclarations donc exclusives hein, d'Hironobu Sakaguchi qui nous éclairent. J'ai pris vraiment quelques périodes, puisque c'est vraiment toute la période de Final Fantasy, donc du premier jusqu'au 15 qui est cité. Donc comme je vous le disais, je ne pouvais pas tout dire. Je me suis concentré sur les tout débuts, sur FF6, un petit peu FF7, et le départ de Sakaguchi de chez Square. Quel que soit le sujet, ça permet de remettre en perspective, et surtout ça nous apprend quelques petites choses. En tout cas, moi, j'ai appris 2-3 anecdotes que je ne connaissais pas. Alors, je ne sais pas si vraiment Sakaguchi les a livrées en première exclusive dans ce numéro d'Edge. En tout cas, il y en a certaines que je connaissais, bien sûr. Mais d'autres, vous verrez notamment FF6, une anecdote que je ne connaissais pas. Et pourtant, Dieu sait que j'ai étudié le sujet. Bref, sur les débuts, Sakaguchi, justement, revient sur l'ambiance hein, qui a drapé la création du premier Final Fantasy. Et là, ça tord un petit peu le coup, vous savez, à ce mythe du jeu qui avait été fait pour sauver la boîte. Alors, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. En tout cas, je cite Sakaguchi, donc, qui dit que Square avait une situation financière très, 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 très compliquée. Donc là, c'était avant la conception de Final Fantasy, hein, je le précise. Monsieur Sakaguchi nous dit « Nous avions essayé de faire des jeux pour le Famicom Disk System, mais nous n'avions pas les moyens pour rivaliser avec les grandes entreprises. » Donc le boss de Square, hein, de l'époque, a rassemblé les 4 game directors de l'entreprise et nous a demandé à chacun de faire une proposition de jeu, nous dit Sakaguchi. Les projets devaient être ensuite soumis au vote des employés pour savoir lequel aurait le plus de chances d'avoir un succès commercial. Je voulais faire un RPG depuis des années, et ce, depuis que j'avais joué à Ultima et Wizardry sur l'Apple 2. Mais Square était concentré sur la réalisation de jeux Famicom, et sans fonction de sauvegarde sur la cartouche, je ne voyais pas comment faire fonctionner ces jeux. Puis, le Dragon Quest d'Enix est arrivé, et il utilisait un ingénieux système de code pour sauvegarder. C'était primitif et simpliste, certes, mais ça a marché. Alors j'ai pitché Final Fantasy à la compagnie. J'ai dit à l'équipe que s'ils sélectionnaient mon projet, on en vendrait plus que Dragon Quest. Ils ont tous ri. Hironobu Sakaguchi continue en disant « Malgré tout, mon responsable m'a donné le feu vert. Je ne pouvais réaliser le jeu qu'avec 4 employés de mon équipe. Heureusement, ils étaient tous très talentueux. Nous avons terminé le développement en 10 mois et ça a été un gros succès. 400 000 cartouches furent produites en tout. » Je ne sais plus à quel moment je me suis rendu compte que la compagnie était alors sauvée. Je n'ai jamais vu les rapports financiers, mais l'année suivante, nous avons sorti la suite de Final Fantasy. Et là, j'ai su que nous étions vraiment en sécurité. Voilà ce que Sakaguchi a dit, à mon sens, hein, de plus important, sur les débuts de la saga. Sur FF6, par rapport à l'aspect choral du titre, hein, il précise « Quand est venu le temps de réaliser le 6e épisode, je voulais aborder l'histoire avec énormément de protagonistes. » Faire quelque chose de complètement différent. J'avais vu ce type d'approche dans le manga sportif, hein, qui était sorti dans les années 60, je précise, Star of the Giants. Alors, Star of the Giants, J'ai fait mes petites recherches, hein, ça s'appelle Kyojin no Oshi en VO, et ça parle de baseball. Et donc Sakaguchi nous dit « Dans ce manga, chaque membre donc, de l'équipe devenait un personnage principal à son tour. Je voulais faire quelque chose de similaire, mais dans l'univers de la fantasy. » Ça, vous voyez, je l'ai tweeté hier, hein, la couverture, une des couvertures de ce manga. Ça, je ne le savais pas. Je ne sais pas s'il l'a dit avant. Alors peut-être que des experts me diront qu'il a déjà évoqué ce manga, peut-être auparavant, dans une interview, peut-être dans un magazine japonais. En tout cas, moi, je ne l'avais, malgré toutes mes recherches, jamais lu. C'est assez impressionnant de voir que le côté choral, qui est l'une de ses forces, que l'inspiration vient d'un manga sportif, je trouve ça assez génial. Sur Final Fantasy VII, Monsieur Sakaguchi nous dit « J'ai toujours cherché à vendre plus de jeux sur le marché américain. Je voulais conquérir les États-Unis, mais rien de ce que nous avions essayé avant n'avait fonctionné. » Durant l'ère du pixel art, donc il sous-entend l'ère 16 bits, les RPG avaient la réputation d'être trop compliqués. Mais tout a changé avec Final Fantasy VII. Sur son départ de chez Squaresoft, il dit « Bien sûr, la raison de mon départ est bien liée à l'accueil du film Final Fantasy, les créatures de l'esprit, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Mais pas seulement, nous dit-il. Durant la période FF7, j'ai dû abandonner la programmation et je suis passé à la production et à l'aspect business de la chose. Ce n'était pas pour cela que j'avais rejoint cette industrie à l'origine. L'échec du film a donc été l'occasion pour moi de repartir de zéro et de revenir à ces choses pour lesquelles j'étais entré dans l'industrie du jeu vidéo. » Et à la fin de ce dossier, il conclut chaque fois, alors je trouve vraiment ce passage formidable, j'avais hâte de vous en faire part. Chaque fois que nous terminions un Final Fantasy, on faisait une grosse réunion avec toute l'équipe en vue d'un gros débrief. Ensemble, nous regardions l'ending du jeu et nous portions un toast avec nos coupes de champagne à la main. Nous mettions tellement d'énergie dans le projet, c'était un moment de grande émotion. Je me souviens de chacune de ces réunions, je ne les oublierai jamais. C'était ces passages-là que je voulais absolument vous rapporter sur les déclarations de Sakaguchi dans ce numéro exceptionnel d'Edge. Si vous êtes vraiment ultra fan, allez-y, 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 puisqu'il y a des documents d'époque, des très belles pages avec des illustrations magnifiques. Je conseille ce numéro à tout fan de Final Fantasy qui se respecte. En tout cas, j'avais vraiment à cœur de vous rapporter ces propos-là. J'espère que vous avez apprécié. Voilà. J'aimerais vous parler d'un document hein, qui est arrivé là il n'y a pas si longtemps que ça sur YouTube, qui s'appelle Hub and Flow et c'est produit par Archipel. Archipel, on y trouve Anne Ferrero, vous savez, derrière Toko Toko, la célèbre émission qui suit des créateurs japonais, donc sur YouTube, une émission absolument fantastique, dont une sur Taro Yoko, le créateur des Nier et des Drakengard. J'en avais parlé maintes et maintes fois, et d'ailleurs je vous invite vraiment à aller voir cette émission absolument géniale. Donc ce document, Ebb and Flow, questionne plusieurs personnalités hein, du jeu vidéo japonais, dont donc Taro Yoko, mais vous avez aussi Keiichiro Toyama, hein, le papa du premier Silent Hill, de Gravity Rush ou encore de Sirène, Katsura Ashino, hein, le papa de Persona 5, Toshihiro Nagoshi, qu'on ne présente plus, hein, Mister Yakuza, ou encore Monsieur Mizuguchi, derrière Rez et tant d'autres jeux de rythmes musicaux absolument fantastiques. Donc ce documentaire n'est sous-titré qu'en anglais, voilà, ça il faut le savoir, c'est quand même à visionner d'urgence pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous ai malgré tout traduit les propos de Taro Yoko, et oui, le papa de l'extraordinaire Nier Automata, vous savez que ce jeu m'a profondément marqué, et dès que je peux en parler, j'en remets une couche. C'est vrai que c'est un créateur passionnant. Je vous invite vivement, comme je vous l'avais déjà dit dans cette émission, hein, de vous ruer sur le livre de Third Edition, hein, qui revient sur la carrière absolument fantastique de ce créateur hors du commun. Et donc le créateur hein, de la saga Nier hein, nous explique dans ce document la différence entre les méthodes japonaises et occidentales. Donc il intervient à plusieurs reprises dans le doc hein, qui fait une quarantaine de minutes. Et donc je vous ai traduit, rien que pour vous mes amis, tous ces propos dans ce document. Voilà, comme ça je ne grille pas non plus tous les propos qui sont donnés par tous ces créateurs de renom. Donc je vous invite après à aller voir ça sur YouTube directement. Mais en tout cas, pour les anglophobes, voilà ce que nous a dit Yoko Taro. Et Yoko Taro, donc, nous dit, ou Taro Yoko, il n'est plus juste de le dire dans ce sens-là, ça aussi, on en a déjà maintes et maintes fois parlé. Bref, il nous dit qu'il fut un temps, hein, dans l'histoire des jeux vidéo japonais, où nous devions vendre des jeux sur le marché mondial. Alors nous avons imité les titres développés en Occident, nous dit le créateur de Nier Automata. Ces jeux donnaient vraiment la priorité à un aspect réaliste et à des images crédibles. Mais au Japon, à côté de ça, nous avions Gravity Rush et The Last Guardian, qui ne se concentrait pas particulièrement sur l'aspect réaliste, mais plutôt sur une image globale, une atmosphère. Considérant les formes d'art, hein, comme les animés par exemple, ou même le ukiyo-e, alors je ne sais pas si je le prononce très bien, ki-yo-e, hein, c'est un terme donc qui signifie « image du monde flottant hein, ». C'est un mouvement artistique japonais qui date de l'époque Edo. Ça regroupait divers arts et notamment les estampes japonaises gravées sur bois. Alors je ne suis pas un spécialiste hein, de l'histoire de l'art du Japon. Ceux qui s'y connaissent mieux que moi ne manqueront pas de rectifier le tir hein, sur les réseaux sociaux ou ailleurs. N'hésitez pas. En tout cas, pour revenir hein, sur ce que dit Taro Yoko, il dit que le peuple japonais ne s'est jamais vraiment concentré dans son histoire sur des représentations réalistes de l'être humain. Il dit « Je pense que nous préférons ce genre de monde surréaliste, abstrait, et personnellement je pense que c'est une grande différence entre le Japon et l'Occident. L'environnement, poursuit-il, hein, de développement en Occident est plus systématique qu'au Japon. Chaque tâche est clairement assignée à quelqu'un. Le middleware est optimisé et tout le monde a appris à l'utiliser comme il se doit. » Les level designers savent exactement ce qu'ils doivent faire. Tout ce processus hein, est fait de manière à empêcher les problèmes ou éventuels accros de se produire. Du côté du Japon, on n'a pas réussi à créer ce genre d'environnement systématique et nous ne sommes encore qu'au stade de l'essai et de l'erreur. Il y aura des gens qui critiqueront cela. Mais ce qu'un directeur hein, fait dans l'environnement avec ses équipes, c'est les encourager, hein, encourager tout le personnel et utiliser de l'huile de coude à l'ancienne pour faire le travail. Je pense que c'est une partie de l'identité japonaise. Donc plutôt que de dire que les réalisateurs japonais ont beaucoup de pouvoir, qu'ils doivent être fiers et égoïstes, sinon les étapes finales ne seront jamais atteintes, en fin de compte, je pense que cet état d'esprit, malgré tout, c'est ce qui fait la différence entre les jeux créés au Japon et ceux créés en Occident. En particulier, il peut y avoir des problèmes avec les titres AAA, dont l'infrastructure de jeu doit être sans cesse optimisée. Ce n'est pas le cas pour les jeux japonais. Donc ici au Japon, je peux dire par exemple qu'on abandonne complètement les sauvegardes automatiques. Hein. Entre parenthèses, hein, c'est ce qui se passe dans Nier Automata. Je rappelle que dans Nier Automata, il se passe au début du jeu un grand moment sans que vous puissiez sauvegarder. Si vous foirez le coup, vous revenez au début, ce qui avait surpris beaucoup de personnes à l'époque. Bref, il nous dit que si il avait proposé ça pour un titre AAA à l'étranger, donc le fait de supprimer les sauvegardes automatiques, tout le monde l'aurait regardé de travers et ça n'aurait pas été possible. Donc, pour conclure, Taro Yoko nous dit que d'un point de vue positif, hein, on peut dire que nous avons ici au Japon plus de liberté dans notre travail. Alors, je tenais à vous retranscrire ces propos parce qu'ils peuvent paraître un petit peu idylliques, mais il y a deux choses, c'est qu'on sait qu'au Japon, effectivement, tout n'est pas rose non plus, le crunch là-bas est aussi assez hardcore. Les conditions de travail sont pas toujours fabuleuses, mais on sait malgré tout que le papa de Nier n'a pas la langue dans sa poche et balance parfois même des trucs qui pourraient, je pense qu'ils doivent donner bien des diarrhées à des attachés de presse hein, ou au service marketing. Donc je pense que les trois quarts de ce qu'il dit, il le pense sincèrement en tout cas. Et donc je tenais à vous retranscrire tout ça. J'ai vu ce document, il est absolument fabuleux. Alors je ne vais pas tout vous spoiler de ce qui se dit dedans, parce que je veux vraiment qu'on aille voir ce doc. Donc ça s'appelle Ebb and Flow, hein, produit par Archipel. Bravo encore Archipel, bravo à Anne Ferrero qui font vraiment un travail absolument fantastique. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description de l'épisode et ça c'est à regarder d'urgence. Et si vraiment vous êtes hyper allergique à l'anglais, bah demandez à quelqu'un de vous le traduire, quelqu'un qui le comprend un peu mieux. Vraiment c'est ce genre de vidéos, ce sont des perles rares, on les met pas assez en avant. Et ce sont des trésors. Donc foncez regarder ça et je pense que votre cœur et votre cerveau vous diront merci. Je me suis procuré le dernier numéro de Edge, hein, le fameux magazine anglais, et dans celui-ci, Jonathan Blow, le papa de Bread et de The Witness, revient justement sur son dernier jeu. Alors The Witness hein, est sorti le 26 janvier 2016, ça commence à dater, mais c'est un jeu d'exploration hein, et de puzzle qui se déroule sur une île qui a marqué énormément de monde. Et donc dans le dernier numéro du fameux magazine britannique, il revient sur la conception, sur la philosophie, si vous voulez, qui a porté The Witness. Je me suis régalé à lire cet article. J'ai pris le temps de vous le traduire pour vous en extraire la quasi-majorité, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc j'espère que ce ne sera pas trop long pour ceux qui n'ont pas joué à The Witness ou ceux qui ne sont pas du tout intéressés ni par le jeu ni par Jonathan Blow. Mais quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas votre cam, je trouve ça très intéressant de voir la philosophie qui habite ce game designer qui, qu'on aime ou pas, est l'un des plus talentueux de notre époque, voire de l'histoire hein, du jeu vidéo. C'est quand même un personnage fascinant, Jonathan Blow. C'est pour ça qu'il m'importait vraiment de vous faire part de cet article. Alors Edge nous dit dans ce dossier que The Witness, hein, donc ça c'est en préambule, hein, c'est en introduction, que The Witness est un jeu, donc certes avec de multiples puzzles, mais le plus important, c'est que c'est un jeu qui traite de la façon dont nous communiquons. L'idée de The Witness hein, résonnait dans la tête de Jonathan Blow bien avant qu'il ne décide de faire Braid. Une idée qui s'inspire à la base d'un jeu d'aventure textuel qui s'appelle Trinity, édité par Infocom sur Amiga, Apple II, Atari ST, Commodore 128, sur système DOS, hein, donc PC, et Mac. Ce jeu, qui était écrit par Brian Moriarty hein, et qui panachait des éléments historiques, fantasy et de science-fiction, abordait les atrocités de la bombe atomique. C'est un soft qui a marqué, qui a extrêmement marqué hein, Jonathan Blow dans sa jeunesse à tel point que ça a carrément, hein, de son propre aveu, changé sa vision de l'art et des jeux vidéo. Tout comme Braid, hein, finalement, nous dit Edge, n'était pas un simple jeu de plateforme, en tout cas pas dans le sens académique du terme, The Witness n'allait pas se contenter d'être un simple puzzle game. Alors on nous explique hein, que les débuts de The Witness s'est fait à travers un projet parallèle, via un prototype dans lequel hein, Jonathan Blow a utilisé un système faisant qu'on traçait avec la souris, on dessinait des formes, hein, avec la souris sur l'écran, afin de lancer divers sorts. Donc le fameux game designer s'était grandement inspiré de Arx Fatalis, un jeu d'Arkane Studio sorti sur PC en 2002. C'est un jeu où il fallait lancer des sorts en les traçant justement à l'écran. Et donc Jonathan Blow avait commencé à imaginer un jeu donc avec divers sorts à apprendre, écrit sur des manuscrits, qu'il fallait dénicher dans des donjons. Mais il voulait rendre quand même cette base de game design plus profonde que ça. Il ne voulait pas juste se contenter de reproduire en un peu mieux finalement ce qu'il y avait dans Arc Fatalis. Donc le projet se dessine dans son esprit et devient assez énorme au bout d'un moment, trop gros même, à tel point que Jonathan Blow dit, hein, je cite, « Je dois faire quelque chose de plus facile, faire un jeu de dés, alors je suis parti sur Braid. » Donc à ce moment-là, le projet donc, qui préfigure hein, The Witness lui paraît tellement énorme que finalement, bon, il a voulu se recentrer sur quelque chose de plus simple. Alors, si tant est qu'on considère que Braid est simple, vu que c'est assez perché, assez profond aussi. Mais voilà. Et donc, il nous dit que pour The Witness, il y a une image qui lui revenait très souvent en tête. Hein. Il se tenait debout au sommet d'une montagne avec le sentiment d'avoir réalisé quelque chose d'important. C'est vraiment une image, une sensation qui drape, si vous voulez, qui nimbe toute l'idée qu'il se fait de The Witness et à travers cela, l'idée qu'il se fait de la philosophie de game designer qui l'habite. Donc dans ce dossier, on nous explicite clairement aussi que développer Braid hein, a enseigné à Blow une compétence utile, se concentrer sur la meilleure partie de l'idée d'un jeu et construire quelque chose de plus simple autour de cette idée. Et ça, c'est marrant parce que ça rappelle un petit peu aussi la philosophie de game design par soustraction qu'applique Fumito Ueda. Je trouve qu'il y a quand même un certain lien entre ces deux visions. Donc, du coup, Jonathan Blow a supprimé sur son concept hein, de base, hein, rappelez-vous, inspiré de Arc Fatalis d'Arkane Studio, il a supprimé le système de sorts, les cachots, les monstres, bref, tout ça à la poubelle, et il s'est focalisé sur le symbole donc, de cette montagne et le principe de tracer. Ça, il voulait absolument le garder. C'était vraiment le corps du gameplay. Donc justement, Jonathan Blow dit, hein, donc je le cite, « Les puzzles n'étaient plus seulement un prétexte désormais. Ils étaient légitimes à leur façon. » Et donc, il se met une énorme pression à ce moment-là pour vraiment donner corps hein, à ce concept qui lui tient tant à cœur. Élaborer The Witness a été particulièrement difficile, nous dit ce dossier dans Edge, car sa conception non traditionnelle exigeait des solutions fatalement non traditionnelles. Mais le but ultime de Jonathan Blow était de s'assurer que le jeu fonctionnait comme un tout interconnecté. L'île, hein, pour ceux qui l'ont fait, l'île du jeu est ouverte avec des zones discrètes, pouvant être visité dans n'importe quel ordre. Il s'agissait d'avoir la foi envers l'esprit d'initiative du joueur. Et ça, c'est un point auquel Jonathan Blow tenait aussi énormément. Et donc, on pourrait dire que si Braid était la première étude hein, de Jonathan Blow sur le pouvoir de la communication non-verbale, The Witness serait quelque part sa thèse de doctorat sur la façon dont les joueurs pourraient interpréter presque hein, comme un langage corporel, l'emplacement délibéré des objets et des objectifs. Mais le game designer savait que tout le monde ne pouvait pas entendre ce message. Justement, Jonathan Blow dit « Certains disent que le jeu est très répétitif à un certain niveau. » C'est vrai, c'est intentionnel parce que nous essayons de ne pas compliquer la situation en vous faisant comprendre les différentes interactivités possibles d'une zone à l'autre. Mais la partie excitante du jeu est ce qui se passe dans votre esprit quand vous regardez quelque chose et que vous le comprenez. Et ça, c'est marrant parce que c'est vraiment ce qui revient très souvent, bien avant de lire et de traduire ce dossier, c'est très souvent ce que nous disent ceux qui sont vraiment rentrés dans la philosophie, dans le délire hein, de The Witness. C'est très souvent les retours que l'on a, cette sensation de comprendre quelque chose qui n'est pas clairement explicité et de faire corps quelque part avec le jeu. C'est quand même assez fort. Hein. On nous explique également que le concept de faire un jeu généreux a été une priorité hein, pour Jonathan Blow, et ce grâce à une conférence hein, qui a lieu à l'une des Game Developer Conference, à laquelle il avait assisté et qui a été menée justement, cette fameuse conférence, par l'auteur de Trinity et maintenant le professeur hein, Brian Moriarty. La partie que j'ai vraiment trouvée inspirante, hein, dit Blow, était celle où il parlait de générosité. Comment les meilleures choses dans le monde sont généreuses. L'influence hein, de Brian Moriarty a été énorme sur Jonathan Blow, non seulement pour sa vision du game design, mais aussi en particulier donc pour The Witness. Le développement justement de ce dernier a commencé en 2008, à un moment où les microtransactions prenaient leur envol. Beaucoup de designers de cette époque, hein, nous explique le dossier, n'avaient alors que comme objectif de faire crasher les joueurs finalement hein, au bassinet. Il fallait faire du pognon, du pognon, du pognon. Donc Monsieur Moriarty disait donc exactement le contraire dans sa conférence, hein, à savoir comment faire la chose la plus généreuse possible. Donc il ne demande pas aux joueurs de constamment rajouter des thunes pour agrémenter son expérience de jeu. C'est donc cette philosophie hein, qui a guidé non seulement la conception de Braid, et aussi de The Witness, bien sûr. Et le dossier de conclure en nous disant que The Witness est sublime, mais seulement parce que Jonathan Blow s'en souciait profondément comme d'un hommage à ses inspirations et à la nature même de l'inspiration, et comme un moyen de partager cela avec les autres. En novembre 2017, le professeur Moriarty donnait une conférence en abordant justement The Witness après y avoir joué et compris l'ampleur réelle de l'impact qu'il a pu avoir sur le jeune Blow à l'époque. « Vous ne pouvez pas savoir si les jeux que vous faites toucheront la vie des joueurs », dit Moriarty, avec une voix gorgée d'émotions. Il poursuit, non sans avec une certaine humilité, « Si on se souvient de nous, c'est parce que les jeunes sont si facilement impressionnables ». C'est aussi pour vous dénicher ce genre de papier, pour vous les traduire, que je fais la revue de presse JV. Donc j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez qu'on continue la discussion, que ce soit sur le Discord, sur Twitter ou ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos réactions. C'est un sujet passionnant, comme une pelote de laine. Hein. Plus on tire et plus il y a de sujets à aborder. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Le producteur de Nintendo Labo revient sur ce qu'il a inspiré, et c'est jeuxvideo.com qui nous parle de ça. Alors vous savez que les deux premiers packs de Nintendo Labo vont sortir le 27 avril prochain, et son producteur, dont Tsubasa Sagaguchi, est revenu, nous dit jeuxvideo.com, sur la création du concept, expliquant que les Joy-Con étaient au cœur de sa créativité. Donc il explique hein, sur le site officiel de Nintendo Labo qu'il a pensé et théoriser son idée en observant ces deux concentrés de technologie que sont les Joy-Con. Malgré leur apparence classique, allant même jusqu'à avancer le fait que ces derniers étaient d'abord de véritables capteurs. Et donc Monsieur Sagaguchi nous dit, je cite, « J'ai commencé à réfléchir à ce qui faisait des Joy-Con des manettes si différentes des autres, puis j'ai finalement réalisé que ce sont des capteurs présents dans chacun d'eux. Si nous fabriquions quelque chose sur lequel nous pourrions accrocher les Joy-Con, nous pourrions utiliser ces capteurs séparément pour créer plein de nouvelles choses. C'est comme cela que le projet a démarré. Par exemple, le jeu de pêche que nous avons développé utilise ce système de contrôle différencié. En attachant le Joy-Con droit à la poignée de la canne et le gauche au moulinet, cela nous permet d'exploiter la position de la poignée pour détecter la rotation du moulinet. Au début du développement, je m'en étais pas rendu compte, mais les Joy-Con sont des capteurs avant même d'être des manettes. » C'est très intéressant comme déclaration, puisque ces fameux capteurs hein, dans les Joy-Con on s'est très très souvent posé la question de leur légitimité, à quoi ils servaient. On savait très bien que Nintendo nous préparait quelque chose en ce sens, hein, voilà, ils ont pas mis des capteurs juste pour faire joli, quoique c'est arrivé par le passé que Nintendo prévoit certaines choses dans ses machines qui n'ont pas été exploitées du tout, mais là visiblement ça a été au cœur de la conception de Nintendo Labo. Alors Nintendo Labo, je le rappelle, vous savez, ce sont des patrons en carton qu'il va falloir monter, dans lesquels s'intègre l'écran de la Switch ainsi que les Joy-Con pour réaliser divers objets rigolos comme donc un piano, un guidon de moto, une canne à pêche, etc. Pouvoir diriger un robot. Mais cela va beaucoup plus loin aussi, puisqu'on a appris ces dernières semaines que vous pourriez, vous et vos enfants, directement programmer de manière très facile et très visuelle des petits mouvements pour pouvoir adapter ces Joy-Con à une création de votre choix en carton. Voilà, on pourra également les décorer, etc. C'est assez clivant comme concept, il y a vraiment les pour et les contre. Moi, vous savez que je fais partie de ceux qui sont assez émerveillés par ce concept-là. Voilà, ça arrive, hein, c'est le 27 avril prochain. Il y aura le pack Toy-Con 1 qui contiendra donc les patrons de la canne à pêche, de la moto, du piano, etc. Et vous avez le Toy-Con 2 qui, lui, sera totalement dédié à la fabrication, vous savez, d'une sorte de jetpack avec d'un petit système de poulies où on dirigera donc un robot à l'écran. Donc si certains et certaines d'entre vous se posent encore la question du bien fondé de ces capteurs, sachez que d'une part, ils sont vraiment au centre de Nintendo, du concept hein, de Nintendo Labo. Et je suis curieux de voir, même au-delà de Nintendo Labo, ce que va apporter ces capteurs à l'avenir. Tout ça est très intéressant et voilà, si Nintendo se foire pas trop là-dessus, ça promet encore de belles choses. Le métier de narrative director avec Gabriel Schrager, c'est un bel article que nous propose jeuxvideo.com qui nous dit que si nous avions suivi la conférence Ubisoft à l'E3 2018 ou même 2017, que nous avions sans doute aperçu sur scène Gabriel Schrager qui chapeaute le récit de Beyond Good and Evil 2, une suite attendue, vous ne le savez que trop bien, de longue date. Peut-être avions-nous également goûté aux fruits de son travail en jouant à Assassin's Creed Syndicate, South Park L'Anal du Destin, The Division ou encore Soldat Inconnu, un titre notamment inspiré des correspondances de son grand-père britannique durant la Première Guerre mondiale. Ça, vous voyez, je l'ai appris grâce à ce papier, je ne le savais pas. Merci, jeuxvideo.com. Bref, on nous dit que sous la houlette du directeur créatif et avec le reste de la core team, comprenant les responsables des aspects ludiques, techniques, visuels, etc., elle est chargée de donner aux jeux sur lesquels elle travaille un message ou plutôt un contexte selon le type d'expérience. Un petit mot sur le parcours de cette dame hein, que nous rappelle jeuxvideo.com, qui nous dit d'ailleurs que tout est parti d'un parcours universitaire, mais déjà toutefois teinté d'une aisance à écrire avec le rendu d'une thèse en sciences politiques. La tendance, nous dit-on, se confirme par la suite, sans encore rejoindre l'industrie vidéoludique, lorsqu'elle travaille pour l'International Herald Tribune pour les publications de la Walt Disney Company. C'est à la fin des années 90 qu'elle entre finalement chez Cryo Interactive et s'attelle d'abord au sound design, puis au game design et à la narration sur la franchise Les Chevaliers d'Arthur. Avant de rejoindre Ubi, elle travaille également sur l'écriture du MMORPG Rhizom pour le studio Nevrax. Alors Gabrielle rapproche la narration vidéoludique de celle de l'orateur qui, dès la nuit des temps, rebondissait en direct sur les réactions de son public et ajustait son discours, ses gestes, son intonation. On nous dit que de la même manière, lorsque dans un jeu nous prenons un chemin plutôt qu'un autre, nous choisissons une option de dialogue donné où nous trouvons une mécanique de gameplay émergente, le jeu s'adapte et, je la cite, nous lit autant que nous le lisons. Donc telle est la particularité de ce média, selon elle, elle a bien raison, et plus particulièrement du métier de narrative director. Gabriel Schrager précise également, lorsque l'on a trop besoin de mots, c'est que l'on a échoué. Elle préfère effectivement laisser le joueur se raconter sa propre histoire par l'interaction, nous dit l'article. Sa règle d'or, ne pas mettre en cinématique ce que le public aurait pu faire lui-même. Elle tient aussi à délivrer son histoire par indices, afin que l'audience se l'approprie, et cite alors Shadow of the Colossus ou encore la série des Dark Souls, qui fonctionne avec des éléments de contextualisation pour nous immerger dans leur monde. À ce titre, elle a conçu le système Echo de The Division, qui développe son lore de manière organique via des hologrammes disposés à travers la carte. Le papier poursuit en nous disant que si Beyond Good and Evil 2 nécessite encore beaucoup de travail et est amené à évoluer d'ici sa sortie, Gabriel Schrager estime qu'il comportera néanmoins son lot de cinématiques importantes mais à dose mesurée. Elles font partie, comme elle les appelle, des entonnoirs narratifs. Le terme est tout à fait imagé, parti du principe que chaque joueur se forge son propre récit, mais qu'il est judicieux de les rassembler parfois lorsque de grandes étapes de l'aventure, une vidéo imposée, sert à ce que tous les participants fassent un point sur l'histoire autrement appelée méta-story. Autour de cette trame, cette colonne vertébrale, Gabriel et son équipe imaginent actuellement tout un maillage d'activités auxquelles participeront les joueurs et qui leur donneront des repères sur ce vaste monde ouvert. Toutes doivent pouvoir s'emboîter et respecter le rythme général du titre. Un travail de titan, en définitive, hein, nous dit jeuxvideo.com, qui ne ressemble encore une fois en rien à un scénario d'un film. C'est par PowerPoint, figurez-vous, que l'on fonctionne chez Ubisoft Montpellier, ce format permettant d'être présenté régulièrement au reste du studio. Afin d'alimenter son esprit, Gabriel lit beaucoup, environ un ouvrage par semaine, actuellement dans le domaine de la SF, pour BGE2, un genre qu'elle apprécie pour la liberté qu'elle offre aux créateurs. Naturellement, lors de la conception de The Division, ce sont plutôt dans les travaux de Tom Clancy qu'elle s'est plongée. J'ai beaucoup aimé ce petit portrait hein, de Gabriel Schrager, qui n'est pas si connu que ça, effectivement, nous l'avons vu à l'E3, tout du moins dans les deux dernières éditions, mais elle n'est pas non plus si médiatisée que cela. Je me suis rendu d'ailleurs sur son compte Twitter pour voir s'il postait des choses, et son compte Twitter est un petit peu décédé, un petit peu mort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses. C'est une créatrice discrète, mais qui a un talent fou. Alors moi, je n'ai pas joué à The Division, je n'ai pas joué à Assassin's Creed Syndicate ou à South Park, l'Anal du Destin, mais j'ai énormément aimé Soldat Inconnu. D'ailleurs, je ne savais pas, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, que c'était inspiré des correspondances de son grand-père britannique. J'ai adoré Soldat Inconnu, je trouvais que le jeu était vraiment fabuleusement bien fait. Et je suppose que son travail sur BGE2 va très certainement être de grande qualité, même si, comme nous le disions avec les tipeurs lors de nos débriefs de l'E3 2018, à part une très belle cinématique, on n'a pas vu plus que ça. Alors certes, on a vu une petite phase de gameplay, mais qui était vraiment encore dans une phase rudimentaire. Mais je pense que le jeu promet, et effectivement, avec une créatrice de ce talent dans l'embarcation BGE2, tous les voyants sont au vert, j'ai envie de dire. Après, on jugera sur place, bien sûr, mais moi, j'ai l'impression que ça sent bon. Enfin, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe, mais je sais pas. Je sens, j'ai l'impression que cette histoire sent très bon. Yoko Taro, ou Taro Yoko, comme on devrait dire plus souvent, le créateur de la saga Nier, hein, qui a récemment explosé en popularité grâce à Nier Automata, nous parle de la façon dont Ikaruga, le shmup mythique hein, du studio Treasure, a influencé ses propres jeux. Alors, j'ai trouvé ça grâce à Siliconera, qui a lui-même traduit en anglais un papier paru dans le Famitsu, et moi, en bout de chaîne, hein, j'ai envie de vous dire, je vous ai fait une traduction française des propos de Taro Yoko. J'aurais pu garder ça pour la rubrique 100% Japon du mercredi, mais j'avais trop hâte de vous livrer l'info ce matin. Et donc, le Famitsu, donc, hein, le célèbre magazine japonais de jeux vidéo de cette semaine, était consacré au shmup, hein, au shoot'em up, et à Ikaruga en particulier, pour célébrer hein, sa réédition sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. D'ailleurs, je vous conseille fortement, c'est vraiment un des jeux à faire absolument pour que sa culture de gamer soit complète. Bref, et donc il y avait également un papier sur celui qui s'autoproclame le plus grand fan d'Ikaruga du monde, à savoir Yoko Taro, donc connu pour Drakengard, Nier et plus récemment, et surtout pour Nier Automata, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps. Je sais, si vous me suivez tous les jours, vous me dites, mais qu'est-ce qui me saoule avec son Nier Automata? Mais c'est pas grave, j'en mets une couche, car ce jeu le mérite. Donc, le papa de Nier nous dit comment Ikaruga, et nous le dit avec grande humilité d'ailleurs, ce qui est toujours l'une des marques de fabrique de Yoko Taro, c'est sa folie et sa grande humilité, et donc il nous dit comment Ikaruga a influencé ses jeux, son œuvre. Et il nous dit, je cite, hein, « Tout d'abord, j'aimerais parler de la façon dont la musique se synchronise avec ce qu'il se passe à l'écran. » Luchi-san, hein, le planificateur et directeur d'Ikaruga, était également responsable de la musique. Grâce à cela, la progression scénique correspond également à la musique. C'est l'une des choses qui rend Ikaruga étonnant. La musique hein, que l'on peut entendre dans le deuxième stage commence pour accompagner parfaitement hein, la scène d'ouverture. Mais à mesure que l'écran se met à défiler plus lentement, la musique ralentit également et se calque complètement à l'action. La façon dont l'équipe a mélangé la musique et les séquences entre elles était vraiment révolutionnaire. Et cela m'a laissé un tel impact que j'ai carrément piqué la technique hein, pour la série Nier. Mais cela ne s'arrête pas à cette simple influence. Dans Drakengard, par exemple, vous avez des missiles magiques et non magiques qui ne pouvaient pas s'abattre les uns les autres. C'est essentiellement ce qu'on peut trouver dans Ikaruga. En outre, hein, les boulettes ennemies dans la série Nier ont également était très influencé par Ikaruga. Et là, Taro Yoko dit au journaliste, s'il te plaît, je le cite, hein, s'il te plaît, écris en gros que j'ai volé ça à Ikaruga. Écris-le en gras. Et plus loin, il dit, plus sérieusement, Ikaruga a influencé la façon dont je synchronise les séquences de jeu avec la musique. Et j'ai fait une parenthèse, mais c'est l'une des grandes forces de Nier Automata, qui a déjà une bande-son totalement enchantresse, mais qui se marie vraiment parfaitement, tellement bien avec ce qui se passe à l'écran. Ça vient à nouveau d'Ikaruga. Monsieur Taro poursuit, combiner les deux d'une manière qui plaît au cœur des joueurs est une tâche assez difficile. Ce genre de technique a été un obstacle à surmonter pour les développeurs depuis les premiers jours de l'histoire du jeu vidéo. Et je pense qu'Ikaruga est le premier jeu à le faire. Car jusqu'alors, les musiques n'étaient séparées que par des scènes différentes à chaque étape. À cet égard, je crois qu'Ikaruga a changé la donne dans l'histoire du jeu vidéo. Oui, c'est vraiment un gros gros fan. D'ailleurs, je refais une petite parenthèse. Vous savez, je parle beaucoup de Taro Yoko dans cette émission, dès que j'en ai l'occasion, hein. Dès que j'ai du biscuit à croquer sur la question. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que je vous dis que Ikaruga, c'est vraiment son jeu, quoi. D'ailleurs, si vous avez fait Nier Automata, la première séquence, la toute première séquence du jeu, c'est Ikaruga. Et donc, Taro Yoko dit que pour lui, bon, il a essayé de faire ça, mais que pour lui, ce n'est pas aussi bien que dans Ikaruga. C'est là que je trouve son côté vraiment humble qui ressort à nouveau. Il dit par exemple, vous voyez, nous avons forcé ces gimmicks lors des transformations des boss. Et pendant que la musique monte pour s'adapter au moment, à l'action, c'est juste un événement scénarisé au final, car les développeurs ne peuvent pas deviner quand le joueur battra le boss. Dans une autre scène de Nier Automata, les mouvements d'un boss encore correspondent au rythme de la musique, mais c'était juste pour que les mouvements suivent la longueur, hein, suivent le rythme de la musique, et non quelque chose que les joueurs pouvaient contrôler de manière interactive. Si c'était fait correctement, la musique augmenterait en intensité, sa rage montrait lorsque vous faites des dégâts massifs ou quelque chose dans ce genre, pour que vous sentez le jeu via la musique. C'est incroyablement difficile à contrôler par le créateur et c'est toujours troublant, mais c'est parce que c'est si bien fait dans Ikaruga que ce jeu est si éclatant. Alors à titre personnel, moi je peux vous dire que je trouve que c'est aussi bien fait dans Nier Automata, mais je trouve l'humilité du gars qui est vraiment extraordinaire, puisque depuis Nier Automata, on va pas se le cacher, il a été hyper starisé, hein, il y a beaucoup de gens qui lui voient un culte maintenant. Moi, il fait vraiment partie de mes créateurs de jeux vidéo préférés, et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai découvert son œuvre après avoir pris vraiment un combo de claques monumental avec Nier Automata. Et je trouve la personne super humble et surtout qui ne se cache pas de ses influences. C'est pas la première fois qu'il dit « j'ai piqué ça à tel jeu, j'ai piqué ça à tel jeu, j'ai piqué ça à tel jeu ». Il n'arrête pas. Si vous avez vu, si vous avez fait Nier, le premier Nier, hein, que moi j'ai fait après avoir découvert Automata, c'est bourré d'influences partout. Ça prend sur Resident Evil ici, ça prend sur Zelda là, enfin... Et c'est des hommages qui ne sont pas cachés, c'est carrément des mondes entiers qui sont architecturés autour d'un hommage. C'est beaucoup plus mature, ça se fond beaucoup plus dans le game design avec Nier Automata, c'est beaucoup plus homogène, et surtout il y a pas mal d'idées originales aussi par-dessus. Mais vraiment, je trouve l'humilité du gars exceptionnelle. En tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Et alors, je sais pas vous, mais moi, Ikaruga, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de le refaire. Le temps, l'argent me manque, mais c'est clair qu'un de ces quatre sur Switch, il refera à nouveau partie de ma ludothèque, car c'est l'un des chefs-d'œuvre vraiment de l'histoire du jeu vidéo.